bienvenue dans votre émission interactive, à votre avis sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat. La question qui vous a été posée sur le Facebook de VOA Afrique était quels sont les effets des sanctions contre des individus, entités ou pays ? Autre question, que dire sur leur efficacité et sont-elles des mesures légitimes ? Donc, grand merci pour tous vos commentaires. Vous pouvez appeler également en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Alors, on fait un petit rappel, notamment en disant que les États-Unis ont placé hier, à propos de sanctions, un jeudi, donc sur leur liste noire financière, le général François Olenga, principal conseiller militaire du président congolais Joseph Kabila, pour entrave au processus démocratique dans le pays. Il est accusé par Washington d'avoir sapé le processus démocratique dans le pays, plongé dans la crise depuis le maintien au pouvoir de M. Kabila après l'expiration de son mandat en décembre. Alors, le général Olenga est notamment sanctionné pour avoir, selon le communiqué américain, harcelé des opposants politiques et procédé à des arrestations et exécutions arbitraires en empêchant l'action des observateurs de l'ONU. Alors, il faut savoir également que des sanctions ont également été imposé contre le Safari Beach Club, qui est un hôtel de luxe qui lui appartient. Et donc ça, c'est des sanctions imposées notamment par le Bureau du contrôle du patrimoine étranger du département du Trésor des États-Unis. Alors nous essayons de joindre des auditeurs en ligne. Nous en avons un, je crois. Allô ? Christian Djerabé ? Christian Djerabé,
oui.
Au Tchad, on vous écoute, Christian, oui. Comment ça va? Ça va très bien, mais la ligne est très mauvaise, alors je vais vous demander d'articuler pour qu'on vous comprenne bien.
Oui, par rapport aux différentes sanctions qui ont été prises pour les dirigeants congolais. À mon avis, ces sanctions n'ont aucun effet sur la production du jury du peuple congolais. On devait sanctionner Dom Pierre à la tête, parce que c'est lui qui avait nommé ses différents ministres, pour permettre à la population congolaise de trouver sa stabilité et de retrouver sa paix. Il faut sanctionner celui qui est à la tête. Il n'est pas dire que voilà cette personne est sanctionnée et sur le terrain, rien ne marche.
Mmh. Et vous parlez dans votre message, vous dites que ces sanctions, c'est une sorte de distraction. Vous dites qu'elles n'ont pas d'effet sur les conditions ou la situation du pays. Il faut des sanctions qui pourront avoir un changement immédiat, dites-vous. Je vous cite, Christian, parce qu'on vous entend très mal. Donc, on va essayer d'avoir un autre auditeur. Merci beaucoup, Christian, pour votre commentaire sur la question. Pour revenir un petit peu sur ces sanctions imposées contre des personnalités en RDC, on rappelle que fin décembre, un 9 haut responsable de l'appareil sécuritaire congolais avait déjà été sanctionné par Bruxelles et Washington. Et tout récemment, l'Union européenne a également prononcé des sanctions contre certains responsables congolais. En effet, le 29 mai, soit 3 jours avant l'Union européenne a infligé des sanctions à 8 hauts responsables congolais pour graves violations des droits de l'homme. Ces sanctions touchent notamment le directeur de l'Agence nationale de renseignement, Caleb Mutondo, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Également sur la liste, le gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé Mupompa, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, et le commandant de la 31e brigade des forces armées, Mwindo Akili. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne ? Ibrahima au Mali.
Effectivement, ces sanctions, je pense qu'elles sont les bienvenues. Vu la crise qui s'enlise de jour en jour, surtout en RDC, ces sanctions, je pense que ça aura un effet, peut-être sur le long terme, non, peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, comme je l'ai dit dans les commentaires, n'auront pas d'effet, puisque si le gouvernement est solide, si le gouvernement reste du côté de ce dernier, je pense que les sanctions n'auront pas d'effet, de grands effets sur ce monsieur en question. Les sanctions en général, ça concerne le gel des avoirs ainsi que les interdictions de voyage. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela, car rarement ces sanctions prises ont des effets sur certains individus ou sur les pays en question.
Et est-ce que vous avez d'autres personnes à nous citer, par exemple, sur lesquelles vous pensez que les sanctions n'ont pas vraiment d'effet à court terme?
Bon, généralement, je ne pourrais pas citer quand même de nom, mais par rapport aux pays qui ont été sanctionnés dans le passé, je pense que les sanctions sont très limitées. Mmh. Elles sont très limitées et sur le court terme, comme je l'ai dit, se sont fait ressentir, mais sur le long terme, les gens se sont ressoudés et l'effet a été très minime. Et même aujourd'hui, quand on prend certaines crises que je ne citerai pas, on voit que ces pays se sont remis malgré l'effet des sanctions.
Mais Brahima, vous êtes Brahima Doumbia ou Brahima Ombotimbe? Parce que j'en ai deux là sur le Facebook, j'essaie de savoir lequel des deux vous êtes.
Vous êtes avec Brahima Doumbia.
Très bien, très bien. Ben, un grand merci pour votre commentaire. On va essayer de joindre d'autres auditeurs également. Alors je reviens encore sur les sanctions imposées, hein, parce que c'est très d'actualité sur les personnalités en RDC. Enough Project, hein, l'ONG, dit chacun des conseillers les plus proches de Joseph Kabila joue un rôle essentiel dans le maintien de la répression des dissidents. Le régime a abandonné les promesses qui aideraient à ouvrir la voie aux élections et des pressions étrangères étaient nécessaires, pense Enough Project, ajoutant la communauté internationale devrait continuer d'augmenter la pression financière jusqu'à ce que le gouvernement Kabila mette en œuvre les principaux critères de l'accord, organise des élections libres et équitables cette année et abandonne les accusations contre des prisonniers politiques. Donc ça, c'est le propos, le commentaire, le point de vue de l'ONG Enough Project. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nous avons Hassan Omar.
Bonsoir.
Comment ça va, Hassan?
Ça va très bien, ça marche.
On vous écoute.
Moi, je crois qu'il n'y a pas une grande utilité dans les sanctions. Les sanctions qu'on effectue, ou sur les gels qu'on effectue, les avoirs contre les hommes politiques qu'on dit qu'ils ont mis des problèmes par rapport à leur société, à leur population. Il fallait aller plus loin que ça et il fallait au moins distribuer les gels. Au lieu de faire du gel, il fallait distribuer les avoirs à la population et aux citoyens qui est gravement touché. Par exemple, les blessés, les rescapés des problèmes du viol ou de la guerre civile. Il fallait distribuer. Mais il ne faut pas seulement rester dégeler et voilà, de mettre dans des comptes ou fermer les comptes. Il fallait distribuer et apporter d'autres solutions. Même, il fallait, proposer une porte de sortie pour les hommes politiques en leur disant si vous ne sortez pas, peut-être on va essayer de faire utiliser militairement des moyens militaires pour faire reculer ou faire abdiquer du pouvoir. Donc, il ne faut pas seulement rester sur le point de dire qu'il faut geler les avoirs.
Hassan, vous êtes dans quel pays?
À Djibouti.
À Djibouti. Est-ce que vous pouvez nous citer des cas de sanctions qui vous touchent particulièrement ou que vous jugez normales en Afrique?
Ah oui, celle qui se passe en RDC, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Mais actuellement, à Djibouti, non, il n'y a pas des avoirs qui sont gelés. Dans notre pays, mais généralement en Afrique, on voit toujours et on entend dans les infos ces sortes d'informations. Mais il faut aller plus loin, et distribuer les gels et les avoirs parce que c'est pour le citoyen. Ces hommes-là, ils se sont enrichis sur le dos de la population qui grève et qui a des problèmes de la famine et de la pauvreté. Donc, il faut distribuer, il faut aller plus loin au lieu de geler les avoirs et les comptes.
Merci beaucoup Hassan Omar Boulalet à partir de Djibouti pour votre commentaire. En effet, nous avons plusieurs commentaires hein, qui disent que eh bien, cet argent, au lieu de le laisser dormir hein, dans les banques, il serait bien de le distribuer à la population qui souffre et qui vit avec beaucoup moins que 1 dollar par jour en général en Afrique. Alors, quant aux sanctions, les sanctions, il y a les sanctions internationales. Hein, on connaît tous très bien les sanctions liées au nucléaire hein, par rapport notamment à la Corée du Nord et à l'Iran. Et il y a aussi ben, les sanctions de l'Union africaine. Hein. On peut en rappeler quelques-unes, notamment en 2015, hein, contre le général Dien Deré, un leader des putschistes au Burkina Faso. L'Union africaine avait levé les sanctions aussi contre la Côte d'Ivoire en conséquence de la prise du pouvoir par le président élu Alassane Ouattara après la capture de son rival Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. 2010 également, l'Union africaine avait imposé à Madagascar Andry Rajoel un an jour pour jour après sa prise de pouvoir. Une centaine de ses proches étaient également concernés d'ailleurs. Et le même jour, on se rappelle que des heurts avaient éclaté entre la police et des opposants dans la capitale Antananarivo. Donc ça, c'est l'Union africaine. On peut citer aussi les sanctions de l'Union africaine en 2009 notamment. C'était des sanctions contre les responsables de la junte en Guinée, Moussa Dadis Camara, son entourage également. L'Union africaine avait d'ailleurs déjà suspendu la Guinée, de même que la CDAO qui avait décrété un embargo sur les armes. Et on se rappelle aussi que l'Union européenne et les États-Unis avaient également pris des sanctions contre la junte. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nous avons l'autre Ibrahim à Bamako.
Oui, bonsoir, je suis à l'écoute.
C'est nous qui en vous fait, écoutons. Comment ça va?
En fait, oui, je vais bien. En fait, je salue la décision de l'Union européenne avec la sanction du RDC. Vous savez, en Afrique, les droits de l'homme sont de tout temps violés. Donc, il faut une pression pour pouvoir réprimer ces actes-là. Vous venez de citer les sanctions contre la Côte d'Ivoire, contre la Guinée. Nous avons vu que cela a été salutaire et a donné un bon nombre de résultats afin de renforcer la coopération internationale. Les autres responsables commettent des crimes, ils ne sont pas poursuivis, donc cela peut les pousser à faire autres exactions. Donc je trouve cette décision de l'Union européenne, elle est salutaire, dans la mesure que cela influencera d'autres responsables de ne pas commettre d'autres exactions ou des viols, des cas graves dans ces pays-là. Vous savez, nos justices sont paralysées, ils ne sont pas aussi à la hauteur de poursuivre ces autres responsables-là.
Brahima, vous avez donc cité les cas que j'avais mentionnés sur l'Union africaine, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Est-ce que selon vous, justement, ces sanctions, toutes ces mesures, elles ont permis, elles ont servi à quelque chose?
Bon, vous savez, elles ont servi à quelque chose dans la mesure que nous ne voyons plus la répétition récurrente de certaines exactions, de certains viols des droits de l'homme dans ces pays, vous voyez. Et cela, sur le plan de la coopération bilatérale, nous avons vu que ça a beaucoup de fruits. Vous savez, si vous laissez ces responsables sans pouvoir les sanctionner, ça sera récurrent, ça sera répétitif. Donc, ça a donné fruits, ça a donné de bons résultats.
Alors, Brahima, vous dites que certaines sanctions sont efficaces et permettent aux autres individus de ne pas commettre les mêmes délits. Est-ce que vous pensez que vraiment les sanctions arrivent à convaincre plusieurs individus en Afrique ou ailleurs hein, dans le monde à ne pas commettre d'autres délits? Parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de personnes qui commettent des délits dans le monde.
Donc, pour le cas de l'Afrique, il faut être réaliste. Il faut donner des exemples palpables sur le terrain. Donc, vous savez, il y a pas mal de conventions qui sont signées mais qui ne sont pas applicables. Dès que vous sanctionnez un être humain et que les autres voient ça, donc cela va les empêcher de commettre une erreur ou de faire des fautes graves, des violations, etc.
Merci beaucoup Brahima. Nous essayons d'avoir d'autres auditeurs en ligne. Un petit rappel, il faut savoir que ce ne sont pas toujours les pays auxquels on pense qui mettent des sanctions aux autres pays. Notamment fin mars, l'Iran a sanctionné 15 sociétés américaines pour soutien à Israël. Ces sociétés, bon, ne font pas d'affaires avec l'Iran, donc c'est pas très très utile. Mais selon l'agence de presse IRNA, citant un communiqué du ministère des Affaires étrangères, toute transaction est interdite avec ces sociétés. Leurs biens seront saisis et leurs responsables ne pourront pas obtenir de visa de la part de l'Iran. Une réaction aux sanctions américaines imposées en février dernier, notamment après un test de missile iranien, décision intervenue deux jours après que les États-Unis aient pris des sanctions également contre 30 sociétés et individus de 10 pays étrangers accusés d'avoir collaboré avec le programme d'armement de l'Iran. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler les sanctions diplomatiques. Nous avons un autre auditeur en ligne, Mustapha au Burundi.
Non, Mustapha Lomé.
Vous êtes où, à Lomé?
Oui, j'étais à Lomé.
Très bien, on vous écoute.
Bon, en fait, pour moi, ces sanctions sont des sanctions légitimes. Du fait que ces tyrans, ils se disent que c'est comme ça. Si, ils ne sont pas là. Si tu la population, il n'y a personne. La question que moi, j'aimerais poser est que, bon, ces sanctions vont dans l'intérêt de qui? Si on sanctionne, soit disant que on gère les avoirs. Moi, ce que j'aimerais savoir, ces avoirs-là, ça va dans les comptes de qui? Normalement, on devrait verser ça à la population qui a été bâtie, disons, bon, ensanglantée. Mais après tout, on attend que ce qu'on a géré les avoirs, mais on ne sait pas là où ces avoirs sont rentrés. C'est ça qui est un peu choquant. Et en plus, si on sanctionne comme ça pour les dissuader, bon. Moi, je vois que ça allait tout bon, mais malgré tout ça, on voit qu'avec cette sanction, même, bon, ils continuent comme si rien n'était. Vous voyez, bon, c'est là que moi je veux savoir, est-ce que ces sanctions ont des pressions sur ces gens-là? Par exemple, moi, dans mon pays, au Togo, il y a ces gens de tyrans, disons, parce qu'ils voient que les jeunes sont maintenant à la hauteur de maintenant, et se disent que comment ils sont là et les jeunes vont venir par leur part. Ça fait que maintenant, ils marchent sur les jeunes. Donc, ils font tout que ils ne veulent pas que les jeunes viennent à leur hauteur. On voit que Forêt, là-bas, et les jeunes, mais ce sont les vieux qui sont en bas et maintenant, c'est eux-mêmes qui gèrent le pays. Ça fait que nous, on souffre ici avec les diplômes, vous souffrez même. Et maintenant, les autres, ils ne vous regardent même pas. Mmh. C'est ce que moi, je voulais. C'est à cela que je voulais en venir quand même. Ces sanctions sont légitimes.
Mmh. Donc, vous, Mustapha, en fait, si je résume un petit peu ce que vous avez dit, vous pensez qu'à la limite, il en faudrait peut-être plus, selon vous, pour laisser plus la place aux jeunes. Vous n'appréciez pas beaucoup, peut-être, si j'ai bien compris, la manière de faire de certains dirigeants qui sont plutôt très âgés et vous demandez à ce qu'on vous laisse un petit peu plus de place, c'est ça?
Tout à fait. C'est tout autour ici. Ce sont les vieux qui sont dans les bureaux. Oh, et voilà, les jeunes sont sortis de l'université avec les diplômes universitaires, ils sont à la maison. Si vous voyez ici les jeunes, c'est que ça fait quitter. Oh, si on les veut, ils disent qu'ils sont comme ça, ils travaillent pour les jeunes. Voilà, vous travaillez pour les jeunes, voilà les jeunes diplômés, ils sont restés à la maison. Bon, moi, je ne vois même pas ce qu'il y a comme intérêt dedans. Donc, pour ça, si on pouvait mentionner certains dirigeants de mon pays, moi, ça allait me plaire. Pour ça, ils n'ont qu'à quitter, laisser le pouvoir aux jeunes.
Merci beaucoup, merci Mustapha Bayor de Lomé au Togo. Oui, oui. Nous avons Daniel Chaco qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique. Je trouve tout ça injuste, dit-il, à l'égard du peuple concerné, les USA. L'Union européenne trouve le seul moyen de retenir tous ses avoirs après avoir financé des guerres et enrichi des commanditeurs de massacres. Il revient à eux de retirer ces avoirs. Si c'était dans l'intérêt de ces pays concernés, ils devraient retourner les avoirs de ces personnalités à la population, dit-il. Je trouve que c'est une bonne leçon pour les dirigeants africains qui pensent que les USA, l'Union européenne sont de bons amis, dit-il. Voilà ce que leurs amis leur réservent. Il y a tant de crimes en série. La France a bombardé la Libye. Quelles sanctions y a-t-il eu de la part de quel pays du monde, dit Daniel Sacco sur le Facebook de VO Afrique. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Bakary Keïta, au Mali.
Bonsoir.
On vous écoute, ça va?
Ah oui. Donc, moi, je dirais que la sanction, quand même, de le gel de l'Union européenne, là, c'est-à-dire, ça va faire des pressions, des effets vraiment à long terme. Moi, je crois qu'il va falloir que les États-Unis et surtout vraiment l'Union africaine s'associent vraiment aux sanctions prises par l'Union européenne et surtout l'Union africaine, parce que son silence à radio vraiment est à déplorer. Vous voyez. Mm-hmm.
Donc, il faut que là, vous parlez de la RDC, Bakary, vous parlez de la RDC?
Oui.
Mm-hmm. Et vous pensez que si l'Union africaine se manifestait de la même manière, on aurait peut-être une issue à la crise?
Bon, on peut avoir quand même des solutions vraiment à l'immédiat. Sinon, le gel, quand même, le gel des avoirs, vraiment, ça, c'est des solutions vraiment à long terme. Mais si jamais l'Union africaine vraiment s'y mettait, et surtout la communauté internationale, ils doivent faire pression vraiment sur le président congolais pour qu'ils appliquent vraiment les conclusions tirées vraiment par les évêques là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est vraiment la sortie, c'est l'issue vraiment de la sortie de la crise. Est-ce que vous voyez? Si on n'applique pas ça, on va tourner en rond. Peut-être probablement, je ne sais pas, il y aurait encore vraiment des pertes en vie humaine, moi je crois.
Sinon, les sanctions imposées jusqu'ici donc par l'Union européenne et les États-Unis contre un certain nombre de personnalités, notamment en RDC, pensez-vous que cela puisse aboutir à quelque chose ou que c'est un coup d'épée dans l'eau?
Bon, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, cela peut quand même aboutir à quelque chose, mais c'est à long terme. Mais dans l'immédiat, la solution n'est pas à ce niveau dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il faut que l'Union africaine s'implique pour dire vraiment à Laurent Désiré, vraiment, au Congolais, là, au président congolais, vraiment, d'appliquer vraiment, malgré vraiment les conclusions quand même que nos éminents évêques ont eu vraiment à adopter. Est-ce que vous voyez? C'est la seule porte que vraiment le président peut avoir quand même une sortie honorable.
Merci beaucoup, Bakary Keïta. Je voudrais citer le commentaire de Gabriel Kandjo sur le Facebook de VO Afrique. Il a écrit « À mon avis, cette décision est légitime, mais ça sert en quoi? C'est pour l'intérêt de qui, dit-il? Ça change quoi par rapport à la souffrance de la population? Nous sommes habitués à ce type de sanctions stériles et les sanctionnés sont habitués à des sanctions éphémères. Le cas de mon pays, la RDC, le général Olenga, tout ce qu'il a fait, on le sanctionne, on gèle ses comptes, il ne peut pas aller aux USA. Mais en réalité, nous, Congolais, nous gagnons quoi, dit-il? Va-t-on retourner ce bien mal acquis aux Congolais? Pourquoi ces sanctions visent l'entourage du président Joseph Kabila et pas le président lui-même, dit-il, comme moteur de tous ces mal? Donc ça, c'est le point de vue de Gabriel Kandjo. Est-ce qu'on peut avoir un dernier auditeur? Nous avons Diarra.
Oui, effectivement.
Diarra Kanyoumé à partir du Mali. Comment ça va?
Oui, je vais très bien.
On vous écoute.
Ok, Nathalie, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, affaire des individus dans les pays, à mon avis, je pense qu'en tant que la corruption existe dans la justice, même à la police, les individus ils ne veulent pas arrêter leur... Donc, à mon avis, je pense qu'il faut imaginer au nord du Mali, il y a plusieurs individus mal intentionnés qui sont en train de perdre la vie des gens à chaque jour. Même hier, au nord du Mali, il y avait affrontement du matin jusqu'à 16h. Il y avait plusieurs morts là-bas. Pourquoi l'Union africaine ne peut pas prendre des sanctions contre les individus comme les terroristes? Donc, à mon avis, je pense qu'en tant que la corruption existe, je pense que non. Les individus ne peuvent pas arrêter leur comédie. Il faut imaginer quand tu prends un des individus aujourd'hui pour te rendre à la police ou bien à la justice, demain ou bien le lendemain, tu vas le croiser sur la route.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diarra. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci à tous nos auditeurs. Restez tous à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt. Au revoir.